Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, les opérations militaires se poursuivent à Gaza, notamment dans la ville de Rafah, où Tsahal poursuit son offensive et lamine les troupes du Hamas. Cependant, tous les otages n'ont pas été libérés et restent aux mains des milices islamistes. Sur la frontière libanaise, les échanges de tirs sont permanents avec les terroristes du Hezbollah. En tout, plus de 150 000 habitants du sud et du nord du pays sont toujours déplacés loin de leur maison. Depuis le début des combats, après le massacre du 7 octobre, 283 soldats israéliens ont été tués. Ces événements sont terribles et suscitent tout notre intérêt et notre empathie. Mais il y a aussi au niveau des dirigeants de l'État hébreu, au sein du cabinet de guerre, des affrontements politiques et stratégiques. S'ils sont heureusement moins mortels, ils soulèvent cependant beaucoup d'interrogations graves. Benny Gantz, un des chefs de l'opposition à Netanyahou et membre du cabinet de guerre, vient de déclarer publiquement et entre autres, je le cite, « Des décisions cruciales n'ont pas été prises. Les actions de leadership nécessaires pour garantir la victoire n'ont pas été accomplies. Il faut mettre en place un plan d'action d'ici le 8 juin afin d'atteindre nos objectifs. » Peu de temps auparavant, Yoav Gallant, ministre de la Défense et lui aussi membre du cabinet de guerre, avait affirmé ouvertement, je le cite, « Le Premier ministre doit établir un plan d'après-guerre pour la bande de Gaza, car les gains des combats sont érodés par le manque de planification. La sécurité à long terme d'Israël est en jeu. » Que se passe-t-il ? Quelles sont les raisons de cette rupture au plus haut sommet de l'État ? Que veulent Gallant et Gantz ? Nous allons demander à Karine Dana de nous éclairer sur cette affaire. Karine Dana, militante de la lutte contre l'antisémitisme, est aujourd'hui responsable des francophones du parti Yesh Atid en Israël, la formation de Yair Lapid. Elle est cofondatrice de la plateforme Hashiva, centre de réflexion sur les enjeux publics en Israël. Bonjour Karine Dana, vous m'entendez ?
Bonjour, oui, merci pour votre invitation.
Ben écoutez, je vous en prie, vous allez bien ?
Très bien, merci.
Voilà. Alors Karine Dana, avant d'aborder ce qui se passe entre Netanyahou, Gantz et Gallant, je voudrais que vous expliquiez à nos auditeurs l'importance pour Israël du cabinet de guerre. Et quelle est la différence entre le cabinet de guerre et le gouvernement ? Qui est-ce qui mène les opérations de la guerre ?
Alors oui, effectivement, le cabinet de guerre a été constitué pour prendre les décisions stratégiques pour mener la guerre. C'est un comité restreint avec des spécialistes bien sûr, le Premier ministre rapporte les échos de son gouvernement, mais au final, les décisions se prennent au cabinet de guerre.
D'accord. Alors, au cabinet de guerre, il y a qui, Karine Dana ?
Alors, il y a le Premier ministre, je crois qu'ils sont cinq. Il y a
Netanyahou.
Benjamin Netanyahou. Il y a Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense. Il y a Benny Gantz. Et Yoav Eisenkot, je crois que j'ai rien oublié.
Non, ouais.
D'accord.
Et est-ce que les décisions ou les pronostics, les propositions du cabinet de guerre sont décidées au niveau du gouvernement, sont présentées au gouvernement ? Ou est-ce que c'est uniquement la décision de Benjamin Netanyahou de prendre les décisions stratégiques après recommandations ?
Il y a des concertations, bien sûr, au sein du gouvernement, mais au final, la décision se prend dans le cabinet de guerre, étant donné qu'il y a des considérations militaires et stratégiques. Mais évidemment, oui, il y a une orientation politique toujours, mais au final, c'est-à-dire dans la configuration actuelle, on est beaucoup plus dans l'aspect qui est c'est une guerre qui est existentielle, donc on est plus dans les paramètres de sécurité, de ramener la sécurité dans le pays, d'affaiblir le Hamas pour qu'il soit mis hors d'état de nuire, et voilà. Donc pour l'instant, on en est plus là plutôt que à des décisions politiques qui vont venir forcément bientôt aussi. D'accord. Sur l'avenir de l'après-guerre.
Et je pense aussi qu'il y a des aspects secrets, il y a des aspects secret défense dans ce.
Oui, voilà, c'est pour ça que c'est un comité restreint. C'est les spécialistes militaires au final qui prennent les décisions justes par rapport aux stratégies, parce qu'il y a des objectifs, mais pour les atteindre, les objectifs, il faut passer par des stratégies militaires et qu'on ne peut pas dévoiler au public. Et,
évidemment. Alors, les critiques de Gantz et Gallant sont très fortes. Elles mettent en cause la manière dont le Premier ministre Netanyahou mène le pays au combat. Et puis, ça fait 7 mois qu'Israël se bat contre les terroristes du Hamas et du Hezbollah. D'après vous, pourquoi Gantz et Gallant font des déclarations et même que Gantz pose un ultimatum et menace de se retirer du cabinet le 8 juin. Pourquoi d'un seul coup ces déclarations, ça qui tombe comme ça,
alors,
brutalement.
C'est pas vraiment d'un seul coup. Ça fait des mois qu'il y a des désaccords. Il y a eu même, je crois, il y a à peu près 4 mois, des déclarations aussi dans ce sens, hein, de la part de Gantz et Zenkot au mois de février, me semble, où ils menaçaient encore de dissoudre le cabinet. En fait, les désaccords, il y a toujours des petits désaccords qu'on n'a même pas connaissance, nous, en dehors de ce cabinet, qui se résolvent là-bas. Mais là, apparemment, les désaccords sont trop importants. Il y a un trop grand décalage entre ce que veut le Premier ministre et ce que proposent les spécialistes, parce qu'on a quand même affaire à des généraux qui sont quand même une expérience Benny Gantz et Yoav Eisenkot, et aussi
Yoav Gallant.
Yoav Gallant et Gadi Eisenkot sont des spécialistes militaires. Mais là, il y a des discordes qui sont... c'est-à-dire qu'ils sont au niveau des priorités. Les conditions, d'ailleurs, que met Benny Gantz dans son ultimatum, le premier point, c'est de ramener les otages. On a vu les mois précédents que ce n'était pas une priorité, apparemment, de la part du gouvernement. On l'a vu à travers quelques déclarations de Smotrich, qui plaçait les otages pas au premier plan. Et donc, déjà, il y a une divergence à ce niveau-là. Benny Gantz est rentré dans le cabinet de sécurité pour pouvoir soutenir l'effort de guerre. Mais si sa présence et ses propositions n'ont aucune influence et aucun poids, malheureusement, il se sent complètement inutile dans ce cabinet de sécurité. C'est pourquoi il a été poussé à bout, en quelque sorte, à poser un ultimatum. Il ne se sent pas écouté.
D'accord. Il en est de même pour Est-ce que Yoav Gallant et Benny Gantz ont les mêmes exigences vis-à-vis de Benjamin Netanyahou? Est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les propositions pour l'après-guerre, ou est-ce qu'ils ont des divergences tous les deux? Parce qu'il y en a un qui est dans l'opposition, et puis il y en a l'autre, il est au Likoud. Il est donc dans la majorité.
Effectivement, mais ils se rejoignent les deux sur un point, du moins celui qui a énoncé Yoav Gallant, c'est sur l'organisation, sur l'objectif de guerre, en fait. On ne peut pas mener une guerre sans avoir un but, un objectif précis. Et là, ils se rejoignent sur l'objectif de guerre, c'est-à-dire affaiblir le Hamas et instaurer à Gaza un cadre sécuritaire israélien et organiser le relais au niveau de la gouvernance de Gaza.
D'accord.
Cette exigence vient de Benny Gantz comme de Yoav Gallant. Ils ont le même point de vue là-dessus. Et ils l'exigent depuis déjà un certain temps et ils n'ont pas du tout reçu de réponse sur ce point.
D'accord. Vous disiez que Benny Gantz se trouvait mal à l'aise au sein du cabinet de sécurité, qu'il n'était pas écouté par Benjamin Netanyahu. On rappelle que Benny Gantz a été chef d'état-major de Tsahal quelques années, d'ailleurs comme Gabi Eisenkot. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, dans ces conditions, il est venu au cabinet et pourquoi il reste au cabinet de sécurité? Il me semble que Yair Lapid avait dit à Benny Gantz, ne va pas au cabinet de sécurité.
Oui, effectivement. Yair Lapid a choisi lui-même de repousser la proposition pour en faire partie. Parce que alors, c'était une décision qui a été quand même difficile et qui a demandé de longues réflexions. Et finalement, les événements lui ont en quelque sorte donné raison, puisque son argument, c'était de dire qu'il se sentait... Il entrait dans ce cabinet sans avoir aucun poids, sans pouvoir avoir une influence, sans pouvoir influencer. Et c'est ce qui se passe exactement avec Benny Gantz, c'est qu'il est là-bas parce qu'il voulait participer à l'histoire de guerre et pouvoir faire profiter de son expérience, de son expertise. Mais finalement, il ne se sent pas écouté et donc il ne voit plus l'utilité d'en faire partie.
D'accord. Alors écoutez, parmi les six points là que propose Gantz, il y a un point qui dit « Faire progresser la normalisation avec l'Arabie saoudite dans le cadre d'un processus global visant à créer une alliance avec le monde libre et l'Occident contre l'Iran et ses alliés.
Oui. »
Voilà. Et il y a également, il précise… une alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Comment Gantz et Gallant peuvent-ils imaginer une gestion de Gaza ou après la guerre sans des Palestiniens?
Si, avec des Palestiniens, mais des Palestiniens qui seraient ni du Hamas ni des alliés de Abbas qui a montré un petit peu son incapacité à gouverner. L'idée de vouloir faire des alliances, notamment avec l'Arabie saoudite, consolider les liens avec l'Arabie saoudite, est vraiment un projet qui était déjà là avant et qui est à long terme et qui a pour but vraiment de nous renforcer dans la région avec des partenaires arabes afin de mieux pouvoir faire face à nos ennemis communs.
D'accord. Donc il y aurait l'autorité palestinienne qui rentrerait quand même dans la composition de la gestion administrative quelque temps avec les Américains.
Il faudra que ensemble avec nos alliés on trouve les partenaires adéquats trouver des représentants palestiniens adéquats pour pouvoir prendre le relais au niveau de la gouvernance.
D'accord, donc il n'est pas question d'occuper Gaza comme le veut Smotrich et Ben-Gvir.
Ben voilà, c'est un des points qui fait des accords justement dans le cabinet de sécurité.
D'accord. Alors, Karine Dana, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, d'après vous, qui a le plus d'influence? Gallant, Gantz, ou alors Smotrich et Ben-Gvir sur Netanyahou et sur les prises de décision quant à la suite de la guerre?
Alors, en fait, justement, on a le sentiment, plus le temps passe, que Netanyahou est de plus en plus tenu par son influence de Ben-Gvir et Smotrich.
L'extrême droite nationaliste religieuse.
Par l'extrême droite, parce que ce sont leurs propositions qui, au final, bloquent, qui rapportent, et qui fait sienne, et qui, au final, bloquent et créent des désaccords au niveau du cabinet de sécurité. Et justement, c'est là toute la question. Alors, comment réagir? Et c'est pour ça que Gantz a lancé un ultimatum, parce que quitter le cabinet de sécurité, c'est d'une certaine manière, que ce soit symbolique ou même pas symbolique, mais vraiment en pratique, ça affaiblira le gouvernement, ça l'isolera encore un peu plus. Pareil de la part de Gallant, et lui, c'est encore plus difficile pour Netanyahou de l'accepter, parce que là, il est dans son parti, et ça peut mettre en danger la coalition.
D'accord. Karine Dana, il nous reste peu de temps, alors je vous pose encore une ou deux petites questions, répondez-moi brièvement. Est-ce que le départ de Gantz du cabinet de sécurité peut conduire à de nouvelles élections et à la désignation d'un nouveau Premier ministre?
Alors, le départ de Gantz seul ne conduira pas à des élections parce que Netanyahou gardera sa majorité au gouvernement. Mmh. Ça va sûrement déstabiliser et encore plus aggraver l'isoler davantage et au niveau de l'opinion publique aussi, qui va être de plus en plus remontée, on va dire, entre guillemets, contre lui. C'est pas bon pour lui. Par contre, si Gallant n'obtient pas ce qu'il demande, et si éventuellement il quitte et emporte avec lui des alliés de son parti, par exemple quelques députés, là oui, le gouvernement perdra sa majorité et Netanyahou devra
refaire des élections.
Il ne pourra plus, voilà, c'est ça.
Alors, pour terminer, dernière question. Que pensent les Israéliens de ces affrontements politiques et stratégiques au sein du cabinet? Et est-ce qu'il y a un rapport entre les manifestations d'opposition à Netanyahou, celles des familles d'otages et les prises de position de Gallant et Gantz?
Alors, oui, les Israéliens, comme vous le savez, manifestent pour plusieurs choses. D'abord, en premier, parce que ça fait 8 mois qu'on est en guerre, les otages ne sont pas encore sortis. Ils manifestent leur colère, leur sentiment d'impuissance, le sentiment que le gouvernement ne fait pas suffisamment ce qu'il faut, que les otages ne sont pas pour lui une priorité. Et donc plus le temps passe, et plus c'est difficile, mais ce qui est encore plus difficile, c'est le manque de considération du gouvernement par rapport à tous ces événements, cette rupture sociale et la colère des Israéliens.
Karine Dana, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on aura l'occasion encore de vous rencontrer. Voilà.
Oui. Ok, merci beaucoup.
Alors, merci. C'était Paul Ouzi-Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.